toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré.
Dans une voiture, un homme et un enfant, autour de la nature grandiose, le bleu du ciel, le vert des pâturages rafraîchis par le printemps tunisien. Par-delà les montagnes, c'est l'échappée folle d'un homme tourmenté, d'un homme qu'on voit au début du film fracasser son ordinateur avant de sauter par la fenêtre de son bureau, entrer en matière virtuose pour un film qui ne l'est pas moins. Bonjour Mohamed Benatia.
Bonjour.
Qu'est-ce qui va pousser Rafik à abandonner sa vie d'employé de bureau pour tout faire valser, enlever son fils et partir sur les routes? On aura l'occasion de le découvrir au fil de cette émission avec vous. Par-delà les montagnes est votre troisième long-métrage, après Heidi et Mon cher enfant, votre troisième long-métrage. Et un léger changement de cap, puisque ce nouveau film s'ancre dans cette réalité sociale qui vous est chère depuis vos débuts. Mais cette fois-ci, le film prend aussi la tangente vers une forme de fantastique. Rafik, votre héros, a un pouvoir, ou du moins c'est ce qu'il croit. Il pense qu'il peut voler. Et c'est une idée, je crois, qui remonte à vos années de lycée.
C'est ça.
Il n'y a pas si longtemps.
Ouf, si, quand même. Non, mais en même temps, ça remonte à ces années-là, mais aussi c'est un rêve que je faisais en dormant. Hein. C'est pas un rêve. C'est-à-dire que je m'endormais et puis je faisais ce rêve où je flottais. C'est pas une lévitation, c'est une descente. Mais une douce descente, c'est vraiment quelque chose de doux, un flottement, et puis parfois je rebondis. Et ce qui était bizarre à l'époque, c'est que je reconnaissais un petit peu le moment du réveil, et j'essayais malgré tout de repousser ça. Et c'est un entre-deux qui m'intéressait, parce que je voulais aussi recréer un petit peu ce sentiment. Mais là, je vous parle de ça, ça fait justement plus de 20 ans. Et ce qui s'est greffé à cette idée, c'est le contexte. Et là, c'est beaucoup plus récent, c'est puisque j'ai commencé à écrire...
Et c'est beaucoup plus sombre.
Oui, malheureusement, c'est l'âge peut-être, mais en tout cas, c'est en sortant du film Mon cher enfant où j'ai commencé à ressentir cette oppression, ce mal-être où on n'arrivait même pas à définir d'où ça provient. Parce que c'est récurrent, c'est généralisé, malheureusement. Je ne veux pas non plus noircir le tableau. Mais c'est quelque chose qu'on ressent et qu'on n'arrive pas justement à nommer ou à déceler. Et de là est partie justement l'idée du film.
Alors justement, vous parlez de douceur, mais en fait, il n'y a pas trop de douceur dans votre personnage, Rafik. Au début du film, c'est quelqu'un qui semble presque soumis à cette vie de bureau, d'open space, de contraintes. Mais tout à coup, il y a quelque chose qui déborde chez lui. J'allais dire un élan vital, mais en fait, c'est presque une force animale.
Mmh,
c'est un sursaut de survie.
Oui, oui. La sauvagerie, en quelque sorte. C'est pas quelqu'un qui choisit les mots pour dire ce qu'il ressent. Donc, il fait confiance plus à quelque chose de l'ordre du corps. C'est une impulsion, c'est instinctif. Donc, on imagine, puisque le film démarre très vite, donc on laisse pas de place aux réponses, à une installation de personnages. On voit justement directement comment il pète un câble. Et puis, on peut deviner à travers les séquences qui suivent, avec sa rencontre avec sa belle-mère, que c'était un monsieur tout le monde qui...
Un gentil garçon.
Très gentil même, c'est-à-dire un gendre parfait qui coche un peu toutes les cases. Un gentil mari, un type qui travaille d'une façon régulière. Et puis même l'open space, là où la séquence du pétage se passe, c'est pas non plus, je voulais pas souligner cette spécificité. C'était beaucoup plus une institution dans sa globalité, le travail en soi, être salarié, être dans cette... dans cette vie où on travaille pour gagner de l'argent, pour le dépenser, c'est un tout. Donc c'est une institution de plus. C'est pour ça que le call center en soi n'est pas un open space lugubre. On voit quand même qu'il y a des fenêtres, c'est par là où justement il se jette. Et puis c'est plein de jeunes, ça aurait pu être même un médecin qui exerce son métier sans trop le vouloir, même si c'est peut-être un peu rare pour les médecins. Mais en tout cas, c'est le travail en soi.
Il y a un lien avec vos précédents films, alors probablement pas seulement le travail, mais Dans votre film Heidi, donc premier long métrage, c'était un jeune qui se révoltait contre un mariage quand même très imposé par sa famille. Mon cher enfant, c'était un jeune de la classe moyenne, promis à un bel avenir, hein, comme on dit, et qui se révoltait lui aussi pour partir en Syrie. Le départ en Syrie était une façon de dire non aussi à sa famille. Donc c'est des films très différents, mais chez vous, il y a toujours cette idée que l'enfer, c'est la norme.
C'est ça, c'est le conformisme, c'est cette vie comme en emporte-pièce où tout est déjà dicté d'avance. Et c'est entre autres pour ça qu'on a repris Majd Mastola, le personnage...
L'acteur
qui joue le personnage de Lafir, puisqu'il était là déjà sur le premier. Et c'est en créant un petit pont entre les deux films pour rappeler qu'on parle encore de conformisme. Autant le premier, c'était dans cette... parce que c'est quelqu'un de doux. Et d'ailleurs, Hedi, en tunisien, ça veut dire doux. C'est forcément quelqu'un qui va se révolter, mais d'une façon très diplomatique, en faisant attention à ce qu'il dit et ce qu'il fait. Là, il prend plus le temps parce que ça déborde et puis lui-même, il est en train de le découvrir parce qu'il est un peu dépassé par ce qui lui arrive.
Il est totalement dépassé par la situation.
C'est ça, oui.
Mohamed Benatia, on va en reparler justement de votre personnage Rafik, joué par Majd Mastoura. Vos précédents films ont fait le tour du monde, celui-ci aussi. Il a fait sa première à la Mostra de Venise en septembre dernier. Et surtout, vos films ont reçu avant un accueil très chaleureux en Tunisie, votre pays. Donc avant d'en parler, on va entendre la critique de cinéma Claire Diao. Alors pour ceux qui regardent Canal+, c'est l'une des chroniqueuses de l'émission Le Cercle. Depuis quelques années, elle a créé une société de distribution, Soudou Connexion, où elle distribue donc des films en Afrique et en France. Claire Diao, bonjour.
Bonjour.
Votre parcours, il est assez exceptionnel, enfin singulier en tout cas. Comment de critique de cinéma, on devient distributrice ?
Eh bien, tout simplement parce qu'à force d'écrire sur des films que les gens voient peu, j'ai toujours eu le même retour des lecteurs. C'était super, mais où est-ce qu'on voit les films ? Donc, dans la première étape, c'était là pendant 10 ans, depuis 2013, un programme itinérant de court-métrage qui s'appelle Quartier lointain, où j'ai démarché vraiment des lieux de projection, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans différents pays d'Afrique. Et l'étape suivante, ça a été la création d'une société de distribution, Soudou Connexion, puisque Soudou veut dire maison en peul.
18 ans. À part la route, rien n'a changé ici.
2024, c'est une année un peu cruciale pour Soudou Connexion parce que c'est le premier film que vous distribuez en Afrique. Et
tout
c'est augure de Balogie.
Zabolo.
Ça veut dire quoi déjà, Zabolo ?
La tâche du diable.
On a démarré l'année en fanfare en janvier avec une circulation au Maroc. Et le 23 février, on a fait une sortie salle dans donc 14 salles, 9 pays d'Afrique francophone dans le réseau Canal Olympia.
Zabolo, sors de son corps !
Claire Diao, distribuer un film en France et distribuer un film en Afrique de l'Ouest en l'occurrence, c'est un travail complètement différent ou c'est le même
c'est
métier ?
Absolument. Alors, c'est le même métier, c'est-à-dire sortir un film, respecter des deadlines, communiquer autour et surtout faire venir des spectateurs en salle. Mais c'est pas du tout les mêmes choses puisqu'en France, on est quand même très contraint par un cadre qui est celui du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Donc, il faut répondre à beaucoup de règles, il faut obtenir son visa, il faut présenter des contrats, il faut s'y prendre très, très longtemps à l'avance. Là, j'avoue que ce que j'apprécie côté africain, c'est de pouvoir travailler avec mon réseau de critiques de cinéma, de la Fédération africaine des critiques de cinéma, et puis rebondir de film en film. On apprend à chaque fois à trouver des nouveaux interlocuteurs, à trouver des nouveaux moyens de communiquer et d'attirer le public, et même de faire des offres promotionnelles, puisqu'on a mis en place avec Canal Olympia des offres un ticket acheté, un ticket offert, qu'on a fait sur Augure, mais aussi sur Halé de Moussa Senapsa, qu'on a sorti le 8 mars dernier.
Et distribuer Augure, alors on a reçu Balogie dans cette émission, on a beaucoup soutenu le film sur RFI. Je rappelle que c'est l'histoire d'un homme qui a été un peu banni de sa communauté en tant qu'enfant sorcier et qui, des années plus tard, revient, sa femme avec lui, donc revient et essaie de renouer contact avec sa famille. Là aussi, j'imagine que c'est très très différent de projeter Augure à un public africain, un public en l'occurrence de RDC. Ça n'a rien à voir avec une projection dans une salle parisienne.
Tout à fait, je trouve que c'est ce qui est passionnant. Parce que quand on regarde le film d'un point de vue occidental, les gens vont considérer que c'est un film africain, alors que Balogi réside en Belgique. Et quand on regarde le film d'un point de vue africain, c'est un film de la diaspora africaine. Et il y a eu énormément de débats de spectateurs après le film, même sur les réseaux sociaux, qui échangeaient sur le film en disant « oui, mais non, mais c'est pas africain », et d'autres qui allaient s'emparer. Au contraire, esthétiquement, c'est très fort. Et je trouve ça passionnant qu'on ait aujourd'hui ces espaces de diffusion, à la fois pour les cinéastes du continent et pour les cinéastes de la diaspora.
Est-ce qu'il y a des distributeurs en Afrique ? Des gens qui défendent le cinéma indépendant.
Ah, alors voilà, c'est pas la même chose. Des distributeurs en Afrique, bien sûr, il y en a. Ceux qui défendent le cinéma indépendant, c'est très compliqué parce qu'au final, aujourd'hui, ce qui fonctionne dans les salles, c'est le cinéma commercial, c'est le cinéma américain, c'est les films d'horreur.
Claire Diao, on a bien compris que vous travaillez essentiellement avec les salles Canal Olympia. Ça représente combien de pays en Afrique ?
Alors là, on travaille sur 9 pays d'Afrique. Donc, c'est le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée, le Rwanda, le Sénégal et le Togo.
C'est un vrai travail de dentelière, en fait.
Vous avez,
tout à fait. Vous avez eu combien d'entrées en tout ? Vous avez déjà fait le compte sur un film comme Augure ?
Pas encore. Non, pas encore. Alors que là, je pense qu'on a reçu les derniers retours. Je pense que sur le premier week-end, on était dans du 550 entrées. En sachant que nous, on n'a aucune subvention pour financer nos campagnes de communication. Donc, j'espère que si on avait davantage de moyens pour communiquer dans les radios locales, dans les télévisions locales ou même avec des crieurs publics, on pourra faire venir davantage de personnes.
Eh bien, on peut diffuser cette annonce sur RFI. Voilà, avis à toutes et à tous. Une dernière question, Claire Diao. Vous allez bientôt sortir en salle Râler les blessures de l'enfance. Donc, je le disais, oui. C'est un film sénégalais. Et c'est l'histoire de deux jumeaux élevés par leur grand-mère en banlieue de Dakar. Donc, ça sort très bientôt en France. Et vous le sortez dans le même temps sur le continent, c'est ça ?
Alors, il est sorti le 8 mars, c'était le 1er ou 2 mars, au Kenya. Et donc, il sortira le 3 avril en France. Et le cinéaste nous fera l'honneur de sa présence.
Merci beaucoup, Claire Diao. Et combien de films sur l'année 2024 combien de films allez-vous sortir ?
Eh bien, là, on est à travailler avec Mati Diop sur le long-métrage Taomé, avec Luc Razanajaona, le réalisateur malgache pour Disco Africa, et avec Walid Matar, un réalisateur tunisien, sur un long-métrage qui s'appelle Le Pont.
Et là aussi, hein, c'est une sortie panafricaine. On peut vous suivre, j'imagine, suivre les sorties sur vos réseaux sociaux ?
Tout à fait. Soudou Connexion, tout attaché. On est sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Et on est ravis d'échanger avec tous ceux qui nous suivent notre actualité.
Merci beaucoup, Claire Diao.
Merci.
Claire Diao, que j'ai pu joindre hier, elle était entre deux projections justement pour le Cercle. Donc on la remercie d'avoir trouvé quelques minutes pour nous parler. C'est intéressant ce qu'elle dit par rapport au manque de gens qui défendent le cinéma d'auteur.
C'est vrai.
Sur le continent. Est-ce que c'est le même cas en Tunisie où il y a quand même plus de salles ?
Franchement, non. Il y a toujours, on en veut toujours plus, mais je crois, mais comparativement, je crois quand même ça se passe mieux, ça se passe quand même un peu mieux. Et d'ailleurs, c'est un mal pour un bien, puisqu'on a pris l'habitude aussi dans notre pays d'avoir un cinéma tunisien toujours centré sur le cinéma d'auteur depuis le début. Et là, ça prend d'autres formes, puisqu'on s'attaque au cinéma de genre, un film d'horreur, un film populaire. Donc, la diversité commence à se faire de plus en plus.
Et est-ce que le public est toujours dans les salles ? Parce que moi, je me souviens des bousculades au moment de quand Heidi, votre premier long-métrage, a été montré aux journées cinématographiques de Carthage. Oui. Les gens se battaient pour avoir des billets.
C'est la particularité déjà des JCC. C'est vraiment une fierté nationale, ce festival, parce que le public a un engouement vers tout ce qui est cinéma et, bon, plus particulièrement le cinéma tunisien. Mais le public, d'une façon générale, reste très curieux. Là, le paysage commence un petit peu à bouger, puisque, comme je vous disais, il n'y a pas que le cinéma d'auteur. Donc, du coup, autant le Tunisien, avant, il n'avait pas trop le choix. Il avait le film tunisien du mois qui sort, donc il y va. Là, ça sort un peu plus. Donc, en un mois, on peut avoir 2-3 films en même temps. Donc, il choisit. Et du coup, c'est beaucoup plus bénéfique pour le cinéma et pour le public de choisir quel type de film aller voir.
La bande-annonce de Par-delà les montagnes, votre film Mohamed Ben Atia, ça rappelle un peu Un monde parfait de Clint Eastwood.
Bah oui.
Vous voyez, hein,
oui,
Kevin
oui.
Costner,
tout à fait, tout à
cavale
fait.
À travers le Texas avec un petit garçon. Sauf que là, en fait, c'est un père et son fils.
Oui.
Et on comprend peu à peu que le père veut partager un secret
oui.
avec son fils.
Mais c'est vrai, c'est drôle que vous me parliez de ce film parce que je l'ai revu pour voir la noirceur du personnage de Kevin Costner. Et en le revoyant avec Frédéric Noirhomme, le chef-op, on s'était dit que vraiment à l'époque, c'est vrai que c'était un film de Clint Eastwood, mais quand même, c'était audacieux parce que Kevin Costner, quand même, c'était le héros, l'acteur qui incarnait tous les héros un peu américains. Et là, il y avait des scènes qui étaient un peu limite, donc c'était audacieux. Donc nous, c'est pas la même chose, mais en tout cas, c'est une relation la père-fils, mais en même temps, l'enfant ne reconnaît pas ou très peu son père. Lui, il est obsessionnel, il en a peur, puisqu'il a kidnappé de force quoi, de son école. Donc forcément, les rapports sont un peu biaisés, il ne peut pas lui faire confiance. Donc, et cette confiance s'établit au fur et à mesure dans le film, mais ce n'était pas gagné du tout au début.
Qu'est-ce que vous lui avez dit à Majd Mastoura qui joue le père ? Est-ce que vous lui avez donné des raisons ? Parce qu'on ne sait pas vraiment, enfin on sent bien que le père veut transmettre quelque chose, mais est-ce qu'il veut transmettre le rejet de l'ordre établi ?
Pas seulement.
Ou alors lui expliquer qu'il peut réellement voler ?
Bah, déjà, il vole, pour de vrai. Nous, c'est une convention qui nous a bien fait rigoler au début, mais on voulait que le personnage arrive presque à convaincre le spectateur, à dire que oui, pourquoi ne pas croire ? On fait du cinéma et donc forcément, c'est toujours un peu difficile à croire. D'ailleurs, ma productrice avait du mal au départ. Elle me dit oui,
Dora Bouchoucha.
Dora Bouchoucha, elle me disait mais oui, mais attends, est-ce qu'il vole pour de vrai ? C'est pas possible. Je lui dis ben, pourquoi ? Autant on l'accepte dans des films de Marvel et autant quand on fait du cinéma dit d'auteur, on n'a pas le droit d'aller de repousser les limites jusque-là.
Donc en fait, vous faites un film de genre, vous faites un film
oui,
de super-héros.
Mais l'idée, c'était.
Et un film d'auteur.
Oui, c'est de dire que dans ce réalisme, dans ce climat un peu morose, on peut encore avoir l'espoir. C'est quoi l'idée de ce vol ? C'est l'espoir que demain va être différent. L'espoir que tout peut encore changer. De ne pas être tout le temps aliéné aux mêmes stigmatisations de nos vies. Donc c'est vrai que c'est une vision extrême et radicale. Mais en même temps, il y avait, on ne va pas dévoiler la fin, mais il y avait aussi ce jeu de rappeler l'amalgame qu'on peut faire malheureusement entre la radicalisation et la radicalité et qu'il ne faut pas avoir peur de la radicalité puisqu'elle peut être porteuse aussi d'une certaine beauté. Donc lui, il peut être un peu rentre-dedans, un peu dépassé parce que c'est pas non plus un criminel, il ne fait pas les choses avec une intention de nuire. Il est porté par quelque chose, une impulsion, donc il n'arrive pas à la gérer, à la contrôler. Mais ce que je disais à Majd pendant les répétitions, c'est que Il est porté vers une obsession de vouloir montrer comment il vole, même si c'est la copie zéro, parce que lui, il flotte à peine et se casse à chaque fois la gueule. Donc du coup, il apprend à voler. Et puis, dans la séquence du dîner, ce qu'il dit, c'est assez révélateur de toute son intention, puisque c'est pas un porte-drapeau, c'est pas, même s'il y a un côté un peu prophétique au film, et on le suit comme justement un prophète, mais lui, il n'est pas là pour bouleverser les gens d'une façon intentionnelle. Ce qu'il leur dit, c'est que on peut se laisser porter, être un peu dans ce flottement pour dépasser le vide dans lequel on est et éventuellement voir que on est encore capable de changer les choses.
Du coup, dans sa cavale, avec son fils, il va entraîner aussi un berger. Mmh. Et ils vont se retrouver pour la nuit. Ils sont en voiture, ils n'ont aucun lieu où aller, donc ils vont arriver dans une maison isolée qui est habitée par une famille de la moyenne bourgeoisie. Ils entrent de force, ils prennent plus ou moins la famille en otage. Et en fait, on s'aperçoit peu à peu que cette famille, c'est plus ou moins un miroir de tout ce que le personnage rejette.
Exactement.
En fait.
Oui, c'est exactement ça.
C'est la famille modèle.
Exactement. C'est-à-dire, et ce qui a été un peu délicat, même pour certains spectateurs, c'est que rien n'est souligné. Donc, du coup, il n'y a pas quelque chose de clair et d'évident à juger, parce qu'on n'est pas en train de juger, on est en train de poser des questions sur ce que peut être aujourd'hui une famille. Donc, la femme, en l'occurrence, qui joue la mère de ses trois gosses, qui est professeure dans une école, on dit qu'elle est en dépression, mais en même temps, on comprend petit à petit que c'est comme c'est un alter ego à la fille. Et les deux, ils sont dans un rejet, mais sans avoir ce recul pour pouvoir le dire. Et c'est un peu ce qu'on vit. C'est-à-dire que ça commence à être de plus en plus généralisé, les angoisses, les anxiétés, les crises de panique, les cachets qu'on prend. Donc à chaque fois qu'on a un petit léger bouleversement, on essaye de ne pas le mettre en évidence, de le cacher, de le maîtriser. Et cette maison, bah, c'est une institution dans toute sa beauté, puisqu'on parle de travail, de normes, de péché, de « il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça », de moyenne scolaire. Mais en même temps, il y a l'aspect planète solaire, comme dans cette séquence avec les deux gosses, où il y a la science et la raison, où on est encore là à essayer de boucler les esprits, à dire que la gravité, on ne peut pas la remettre en question. Et c'est un fait, justement.
Mais du coup, ce mal-être dont vous parlez, il est mondial, mais il affecte aussi la Tunisie,
oui.
Votre pays.
Bah, ça sort de la Tunisie, puisque j'y vis, donc forcément, je m'inspire de ce qui m'entoure. Mais je crois que ce n'est pas propre à un pays arabe ou musulman, c'est devenu propre aux sociétés modernes, où de l'extérieur, quand on a un ami qui va se confier en disant « je ne vais pas bien », on lui dit tout de suite « estime-toi heureux, tu as tout ce qu'il faut, tu as une famille, tu as une belle maison, tu as un travail ». Donc il y a toujours ce mécanisme de se dire « mais de quoi on peut se plaindre ?» Et pourtant, on se plaint. Donc du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus ancré. C'est quelque chose qui... On n'arrive plus, je ne veux pas non plus noircir le tableau, mais à se réaliser de la façon, en tout cas, censée nous procurer ce bien-être quand on se réalise. Et ceux qui se réalisent, en tout cas autour de moi, encore une fois, font des métiers, soit manuels, soit quelque chose qu'ils aiment pour de vrai. Et puis la famille, maintenant, c'est quelque chose d'encore plus délicat, puisqu'on est tout le temps partagé entre la peur de finir seul, d'où l'intérêt de faire ces deux parties dans le film, où on a le berger dans son unicité, dans sa solitude extrême, entouré de ses bêtes, qui a plus d'aptitude à croire à cette idée folle. Et puis la deuxième partie, où on a la communauté, la famille, où on est entouré, mais on peut être entouré et se sentir seul. Donc ça...
Ce malaise justement généralisé, Mohamed Benatia, vous avez tout de suite su que ce serait le sujet du film où vous avez tourné autour.
Ah non, je l'ai... C'était le point de départ. Moi-même, j'étais, comme je vous disais tout à l'heure, entouré et moi-même, je me posais des questions. J'ai la chance d'aimer faire ce que je fais. Vraiment, c'est une vraie chance. Et puis, je fais aussi de la cuisine. Donc, les deux métiers que je...
De la cuisine ?
Oui, on a un petit restaurant familial. Donc, du coup, je cuisine. Et c'est vraiment un bien fou.
À Tunis ?
À Tunis, c'est une thérapie. C'est-à-dire quand on a des doutes dans le cinéma, on se réfugie en cuisine et vice-versa, et ça marche plutôt bien, donc ça va.
Alors, on reparlera cinéma, se soumettre ou pas, se mettre dans le rang ou pas, mais avant, on écoute Bébéti du groupe Cotonette, toute la douceur du monde en un seul titre.
Bébéti, vamos embora. Está na hora, Bebete, vamos embora, pois está na hora. Olha que o galo cantou, o sol vai raiar e você não parou de sambar. Sei que você me é fiel, mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar que eu sou o seu homem e você minha mulher. Quem não chora não mama, nosso neném tá chorando, querendo mamar. Você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar. Já não posso mais chegar atrasado e nem pensar em faltar, pois o novo gerente não é lá muito meu amigo. E depois, como é que eu posso comprar, estando a perigos, novas sandálias pra você sambar, Bebete, é. Bebete, vambora, Bebete.
você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar. E já não posso mais chegar atrasado e nem pensar em faltar, pois um novo gerente não é lá muito meu amigo. E depois, como é que eu posso comprar, estando a perigo, de novas sandálias pra você? Samba, pedete é.
Vous êtes bien dans tous les cinémas du monde et notre invité Mohamed Ben Atia pour parler de Par-delà les montagnes. La grande question du film, c'est qu'est-ce qu'on lâche, qu'est-ce qu'on accepte de perdre et qu'est-ce qu'on accepte de gagner ?
C'est vrai.
C'est une question que vous vous êtes posée sans doute.
Pas dans ces termes-là, mais c'est vrai, puisque surtout avec ce qui se passe dans cette maison, avec ce qui se passe à la toute fin, il y a quelque chose justement où si on accepte de se laisser porter et de ne pas tout le temps garder nos acquis, il y a toujours de belles surprises. Mais bon, ça on va pas dévoiler parce que si je m'embarque là-dedans, c'est clair que je vais raconter la fin du film.
Non, sans raconter la fin du film, vous-même, vous avez suivi une voie classique, une grande école de commerce, je crois. Vous avez commencé à travailler, manager chez Renault.
Oui, pendant 12 ans.
Et 12 ans.
C'est énorme. Hein.
Avant de tout lâcher pour faire des films. Donc pour vous aussi, il y a eu un grand saut.
C'est exactement ça. Je me rendais pas compte parce qu'après on me parle de courage, mais je crois que là aussi on arrive à un stade où c'est pas une question de courage, c'est quelque chose qui vient très naturellement à un moment donné, on n'a plus le choix. C'est-à-dire que ça a tellement duré, en tout cas pour moi, qu'au bout de 12 ans, c'est devenu un passage très automatique et très naturel. Et je ne regrette pas, peut-être qu'il fallait que ça prenne autant de temps. Donc du coup, j'ai commencé à faire des courts-métrages en travaillant chez Renault, en cumulant les congés pour faire les cours. Et j'en ai fait heureusement 5, alors que je travaillais encore chez eux. Mais quand il s'agit de passer au long, là, voilà, encore une fois, ce n'est pas une question de courage, mais il y avait un long métrage qui était là.
Une décision
le montage
à prendre.
Final, voilà.
Une productrice qui vous attendait, Dora Boujoucha.
Exactement, qui était là aussi. Donc, les éléments étaient tous réunis pour que je fasse ce saut.
Par-delà les montagnes, c'est votre film le plus personnel, enfin,
à tout point de vue.
Si je me trompe. Et c'est un film aussi fantastique. Alors, est-ce que c'était déjà pensé au début du scénario, ou est-ce que en suivant vous suiviez le parcours du personnage, vous écriviez
non,
le scénario et peu
cas...
à peu, ça s'est imposé?
Non, c'était le cas depuis le départ. Je savais que ça n'allait pas être tout à fait fantastique au départ, pour moi. Mais je savais qu'il fallait que je porte cette idée de vol et de ne pas le trahir et de ne pas rêver petit, de vraiment oser large. Et quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis tout permis parce que je ne pensais pas à l'époque, je finissais le tournage de Mon cher enfant, je ne pensais pas que ça allait être mon troisième film. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire sans penser à la faisabilité, juste le plaisir d'écrire cette histoire. Donc du coup, les premières versions, ça partait un peu dans tous les sens. Ça finissait en Algérie, c'était un film d'époque qui se passait dans les années 90. Il y avait la décennie noire, en tout cas, ça prenait une autre résonance. Et puis on m'a dit que là, ça ne pouvait pas se faire parce que ça partait un peu dans tous les sens. Et je ne regrette rien parce qu'à un moment donné, tout comme je le fais maintenant pour parler du film, j'aurais pas pu en parler avec autant de fluidité. C'était à un moment donné, il y a des choses qu'on écrit et on est porté par l'envie de les écrire, mais pas sûr de pouvoir en saisir toutes les nuances.
Tous les sens ?
tous les sens, vraiment. C'est pas dans l'ordre du cinéma contemplatif, même si j'adore ce cinéma-là, mais en tout cas, c'est, je me suis vraiment fait plaisir. Et donc, du coup, j'ai revu ma copie, et voilà, et petit à petit, en suivant le personnage, j'ai su qu'il fallait que ça soit plus resserré, que ça va être un road movie au départ, et qu'il y aurait aussi un peu d'action, ce suspense, voilà.
Et avant de travailler le road movie, vous travaillez le malaise. Dans l'extrait qu'on va entendre, les beaux-parents de Rafik lui font la morale. Sa belle-mère lui dit entre autres « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?»
Rafik, je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais
pas ce que tu fais.
Je t'ai décidé.
Je vais aller avec eux.
Où est-ce que tu vas aller ? Je t'ai trouvé où tu es. Je vais sortir de la porte et je vais prendre la malaise. Je vais aller ظهر لي احنا هنا كلنا تهمنا مصلحه ياسين ما هو هكا ولا ياسين باش يقعد في المكتب نتاعو وهذا ما فيهوش حديث وزيد الكونسيرفاتوار قريب لنا معناها يلزمك تدبر كري لنا ماك تعرف هوني غالي الكري
Qu'est-ce qu'elle lui dit cette femme
Donc elle lui dit qu'est-ce que tu comptes faire
c'est
maintenant
violent.
Oui, oui, mais c'est très, c'est insidieux, c'est une violence douce, mais une violence, c'est-à-dire qu'elle le pousse dans ses retranchements, elle lui dit elle lui pose des questions tout à fait légitimes.
Mais, par exemple.
Elle lui dit déjà qu'est-ce que tu comptes faire, puisqu'il sort de prison, 4 ans de prison, il lui dit je récupère ma femme et mon fils.
Il sort de prison parce qu'en fait il a fracassé
son lieu de travail.
Le bureau. Voilà.
Voilà. Elle lui dit mais est-ce que tu as où loger, parce que le propriétaire a repris son appartement et si tu comptes prendre un loyer, une location dans le quartier, ça va être trop cher pour toi. Est-ce que tu comptes retravailler parce qu'il faut que tu travailles? Donc c'est des questions toutes bêtes et légitimes, mais mises bout à bout, ça rappelle justement tout ce mécanisme où il y a des responsabilités tout le temps à prendre et des décisions qui ne nous appartiennent plus.
En fait, elle lui ferme toutes les portes.
Pour lui expliquer que l'enfant reste chez eux.
Voilà, et qu'il ne le verra quasiment plus.
Presque pas, parce qu'il fait peur.
Et lui, il faudrait décrire son visage, le visage de l'acteur à ce moment-là. C'est un mélange d'accablement, de colère et de honte.
Il est fermé, il est surtout fermé, parce qu'on a coupé. Il y a le montage qui est passé derrière, parce qu'il fait une réaction à la fin, qu'on a coupé. Mais lui, dans son visage, justement, il est fermé, mais en même temps, il est en train de cumuler toute cette violence. D'être dans un... Oui, il cumule petit à petit tout ce qu'elle lui dit pour amener à cette prise de décision de kidnapper l'enfant. Parce qu'il ne lui laisse plus le choix.
Ça parle aussi d'une... Enfin, je ne sais pas si l'expression vous sciera, mais d'une masculinité en crise.
Oui, oui.
Parce que lui ne sait pas où il est, en fait.
Oui, on me dit tout le temps pourquoi tu crées que des rôles pour les hommes. Ce n'est pas une solidarité masculine. Mais bon, forcément, je vis dans ce corps d'homme. Donc, de mon point de vue, je ressens les choses et je les vois depuis ma place. Donc, forcément, il y a quelque chose qui m'attriste, mais en même temps qui m'attendrit. Il y a pas mal d'hommes qui arrivent à un moment donné de leur vie où ils sont des missionnaires. Ils lâchent. Et autant pour parler de la femme tunisienne qui est combative, et c'est un fait, et du fait que les cafés sont remplis d'hommes et pas de femmes, parce que les femmes travaillent pendant que les hommes fument le narguilé ou jouent aux cartes, ou ils sont dans le chômage, quoi. Moi, ça m'intéresse, ce découragement. Ils sont dans une lassitude. Qu'est-ce qui les a amenés, justement, à être à ce point démissionnaires ?
Au début, le film s'appelait Les Ordinaires, je crois.
Oui. Et ça ne marchait pas, apparemment.
Oui,
oui, mais moi, j'ai beaucoup aimé
beaucoup
ce titre.
Du personnage. Oui.
C'est parce que justement, lui, il dit avoir un truc extraordinaire, mais ça nous interroge sur qu'est-ce qui est ordinaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, moi, je l'aurais bien gardé, mais je comprends aussi qu'après, il y a des aléas que je ne maîtrise pas, que je fais confiance aux professionnels.
Des aléas marketing.
Voilà.
Mais on sent quand même dans ce troisième film, Mohamed Benatia, l'envie d'aller un peu ailleurs. Déjà, vous tournez dans une région du nord-ouest de la Tunisie, la région d'Aïn Drahm.
Oui.
Donc, une région qui est à la fois très isolée, très belle, très verdoyante,
oui.
Avec des montagnes extraordinaires, dont une qui, effectivement, imite à la perfection le dos d'un dragon. Ça a une importance,
oui.
dans le film. Et puis, souvent, votre mise en scène est très sobre, très sèche. Ici, on sent l'envie d'aller un peu voir ailleurs. Il y a même une forme de lyrisme.
Oui, c'est vrai. Bah, parce que le propos s'y prête, là. Donc,
c'est le décollage du troisième long métrage.
Oui, non seulement ça, mais en même temps, quand on a un repérage tel que cette ville et ses plaines, et quand on a la voiture, les départs, le champ du possible, ça nous permet justement de croire qu'il y a quelque chose de possible derrière ces montagnes. Donc le propos s'y prêtait beaucoup plus ici.
Un ailleurs est-il possible derrière les montagnes? On en reparlera avec vous, Mohamed Benatia. Mais avant, on écoute Blinky Bill. Sur RFI, dans tous les cinémas du monde, avec notre invité Mohamed Benatia. Vous disiez tout à l'heure que les Tunisiens peuvent voir tous les mois 2 ou 3 films tunisiens. Mm-hmm. C'est quand même incroyable, parce que c'est un... Enfin, on a beaucoup parlé de nouvelles vagues tunisiennes, alors probablement le terme n'est pas le bon.
Bah pourquoi pas, hein,
mais en tout cas, oui, il y a eu un renouveau du cinéma tunisien qui est très présent dans les grands festivals mondiaux.
Depuis 2011, parce qu'avant...
Depuis la Révolution.
Oui,
en fait.
Franchement, moi j'ai toujours peur de faire ces raccourcis, mais là, pour le coup, c'est le cas. Les statistiques sont là pour le confirmer. Avant, on en produisait très peu, genre 2-3 max par an. Alors que là, on peut voir
là,
dans les salles...
Là, c'est 2-3 par mois.
Exactement, voilà. Donc ça change quand même la donne.
Et la nature des films s'est modifiée aussi ?
Et la nature s'est beaucoup plus diversifiée. Là, pour le coup, le public est ravi, puisque à la limite, parfois, ils pouvaient râler en disant « c'est bon, avec les films d'auteur, ils voulaient quand même des films plus populaires, plus de genre ». Et c'est ce qui se passe entre les films d'horreur, les films d'action, les films populaires surtout, là, ça marche très très fort. Donc ça, c'est une vitalité nouvelle pour nous, le cinéma.
Et le public est dans les salles
Il est toujours dans les salles. Ça, c'est une chance, vraiment, pourvu que ça dure. Et c'est une particularité, on est vraiment aux limites chauvin, disons fier par rapport aux autres pays du monde arabe. Là, il y a toujours du monde dans les salles. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, C'est l'habitude est encore présente d'aller voir un film en salle.
Et il y a des financements, comment ça se passe
Les financements n'ont pas bougé, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a l'aide ministérielle. Malgré la crise, elle n'est pas revue ni à la hausse ni à la baisse, plus ou moins. Mais contrairement, par exemple, à ici, où il y a des avances sur recettes, là, c'est une aide à fonds perdus. Donc, c'est pas négligeable. Ça nous permet quand même de démarrer le financement, le montage financier d'un film.
Et il y a beaucoup d'écoles de cinéma. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire du cinéma.
De plus en plus, par rapport à avant, oui.
Il y a des écoles.
Il y a des écoles privées. Il y a vraiment une vraie énergie autour du cinéma, là.
Et vous disiez, en 2018, c'était au moment de la sortie de Mon cher enfant, qu'aujourd'hui, dans le cinéma tunisien, on peut à peu près parler de tout.
Oui, c'est encore
toujours
le cas.
Oui,
franchement, oui. J'ai rarement entendu parler d'un film qui a été censuré pour quelle raison. D'ailleurs, je ne vois pas du tout, ni sur le plan religieux, ni sur le plan moral. Non, ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas... Et d'ailleurs, je ne crois même pas qu'il y a eu une censure au niveau de l'écrit ou de l'écriture, puisqu'on soumet déjà avant ça les scénarios pour demander de l'aide au ministère. Il y a eu rarement ce genre d'incident.
Vous qui avez beaucoup voyagé avec vos films, Mohamed Ben Attia, est-ce que vous pensez que le cinéma peut contribuer à casser les clichés autour de la Tunisie, du Maghreb?
Ah, ça c'est un débat
très
long, vaste débat. Parce que justement, le grand public en ce moment... en voyant les films populaires débarquer qui ne peuvent pas être exploitables ailleurs que chez nous, mais ça leur a fait tellement du bien que pour eux, certains films tunisiens, généralement ceux qui vont dans les festivals, c'est des films faits sur la commande et pour la volonté d'un pays comme la France, par exemple, pour un public bien précis, mais qui ne correspond en aucun cas aux attentes du public tunisien. Donc moi, je ne suis pas non
mais,
plus
mais
dans ce...
qui dit ça parce que...
C'est le grand public dans sa ouais. large définition.
Parce que vos films, par exemple, ils ont fait les grands festivals mondiaux, vous avez
oui,
des
oui.
prix au festival de Berlin, vous avez été à la Mostra
ben,
de Lille,
je
mais
comprends,
en même temps, vos films ont été très vus en
oui,
Tunisie.
Oui, oui, mais...
Il y a l'idée que c'est des films faits pour...
Il y a toujours cette idée,
pays,
cette idée de
festivals.
Véhiculer... Voilà. En même temps, il y a un ras-le-bol de croire que la Tunisie se résume à ses problèmes sociaux. C'est ce que je peux comprendre aussi. Et c'est en ça, par exemple, cette idée de terrorisme, de la radicalisation et l'idée d'en faire cet amalgame, ça me tenait à cœur que le personnage soit mis dans cette case. Et voilà, le Tunisien, quand il sort de chez lui, il a aussi envie de voir des problèmes qui le concernent lui. Il y a cette conception de l'universel qui, moi, parfois peut me poser problème, mais en même temps, je comprends l'envie, je comprends l'idée de se sentir comme n'importe quel autre pays, de ne pas être tout le temps ramené
à ses problèmes
au terrorisme,
sociaux.
Aux droits de la femme, à la religion. Parce que c'est vrai que c'est tout un pays avec ses paradoxes et ses problèmes et ses particularités, positives ou négatives. Donc, on a envie aussi de creuser ailleurs.
Mais vous, justement, quand vous projetez vos films en dehors de la Tunisie, j'imagine que ça aide aussi à casser certains clichés. Par exemple, dans Mon cher enfant, vous montrez un jeune homme qui est en train de passer ses examens, qui est dans une famille de la petite bourgeoisie. Tout va bien pour lui, en fait.
Oui.
Sauf qu'à un moment donné, il se révolte et il part en Syrie.
Et ça a été très compliqué parce que dans certains pays, et même en Tunisie, on m'a dit qu'il y a pas mal d'indices qui, au lieu de condamner le djihad et de condamner ce qui se passe, c'est comme si je faisais l'apologie, ce qui n'est forcément pas le cas. On est tous là à condamner le terrorisme et je crois que c'est un peu bête de le justifier puisque c'est quelque chose d'évident. Mais ce qui m'intéressait pour ce film-là, c'est d'aller plus loin de cette évidence et de creuser autre chose. Et surtout que ça a été vécu par plein de jeunes. Par des profils qui ne correspondent en aucun cas aux clichés, même si c'est le cas. Du moins, ces clichés, c'est que ça a été plein de fois vu. Ce n'est plus des considérations d'argent ou de religion ou de pauvreté ou parfois même de drogue. C'est un manque de sens, d'idéologie, d'aller vraiment à toucher l'extrême, même à quitte à se faire tuer, brûler, de vraiment se mettre en danger, parce qu'on arrive à ressentir un peu de néant autour de nous. Donc c'était ça l'idée. Et donc je casse un peu les codes, c'est vrai, mais pour ceux qui n'ont pas les très clichés. Bien compris ou vu comme il fallait le film, pour eux c'est encore un peu exotique puisque je touche à un sujet qui peut être vendeur. Alors que c'est exactement le contraire, puisque c'est un point de vue un peu plus nuancé, voire un peu plus complexe.
Mais justement, comment on vit ça quand on est cinéaste ? C'est-à-dire que je vous entends et j'ai l'impression que vous présentez un film en Tunisie et un autre film à l'extérieur du pays. C'est-à-dire que les gens ne voient pas du tout le même film.
Pour ce film-là, c'était le cas, c'est vrai.
Mais que ça parlait de terrorisme.
Voilà. Parce que justement, à l'époque en plus, on finissait un peu les années noires où on avait vraiment pas mal d'histoires morbides à raconter autour de ça. Donc forcément, c'est quelque chose de très délicat. Et les gens qui allaient voir ce film-là attendaient une condamnation claire et nette du parti islamiste, des gens qui ont facilité ces passages. Donc c'était quelque chose, une attente politique claire. Alors que pour moi, c'était enfoncer des portes ouvertes. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt de dire que je dénonce le terrorisme. Et c'est ça où c'était...
Enfin, ça ne fait pas un film, en tout cas.
Voilà.
Mais c'est pas un peu lourd d'être toujours l'ambassadeur de son pays ? Alors qu'on est cinéaste, qu'on produit des prototypes.
Je ne l'ai pas sorti à ce point, pour dire la vérité. Mais ce qui peut être lourd, c'est qu'on est toujours très exigeant envers nous. C'est vrai. Il y a toujours une attente. Le public tunisien, il y a toujours une attente encore plus exigeante, surtout si on a été à l'étranger pour faire des festivals. Donc forcément, il y a toujours un air suspicieux de se dire « Ah, lui, peut-être qu'il a fait dans l'opportunisme pour aller taper dans ces portes-là. » Donc c'est vrai qu'il y a un peu de ça.
Donc vous êtes tenu en joue.
Il faut faire, voilà, il faut que
je fasse gaffe. Tenu à l'œil, en tout cas.
Existence, then rob me of my innocence, then thank me for my diligence, play me like Sega Genesis. Oh, how I wish that was true. I dare not try to blame you. I only bit more than I could do. I only bit more than I could chew. This next place, I won't take a fall. This next place, I'll be above it all and follow better the protocol.
Merci beaucoup, Mohamed Ben Attia. Votre film Par-delà les montagnes sera en salle mercredi prochain. On termine cette émission avec Nice Town de Métronomie.
My new flat's got me humming, man. Skylight rooftop in summer rain. My porch and my cold lemonade. Square dance, mingle and promenade. Burn incense with my subconscious. Try to make sense out of the nonsense. Turn a blind eye to redundance. Convince myself no one could have done this. Clap my hands to the sing-along. They'll love me more when I get it wrong. Nice Town.
Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré. C'est Apolline Verlon qui a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même cinéma.